bois, produit de la forêt, matière noble et vivante, sans cesse renouvelée, a longtemps occupé une place de choix dans la construction. Cependant, la découverte et la mise au point de matériaux moins capricieux, plus stables, isotropes et mieux connus, a relégué le bois à l'arrière-plan. Très récemment, les nécessités d'économie d'énergie ont renouvelé l'intérêt pour l'utilisation du bois en construction, celui-ci nécessitant 10 fois moins d'énergie pour sa mise en œuvre que les autres matériaux fabriqués par l'homme. De plus, en raison de sa nature même, le matériau présente une grande variabilité de ses caractéristiques. Il en résulte, en construction, un surdimensionnement systématique, grand gaspilleur de matières premières. Regardons d'un peu plus près la structure du bois. C'est un agglomérat de cellules dont les caractéristiques dépendent de divers facteurs. L'essence, la nature du sol, l'exposition, le climat. On obtient ainsi toute une gamme de bois, dur ou tendre, flexible ou cassant, léger ou lourd. La coupe transversale d'un tronc révèle toute une série de cercles concentriques. Ce sont les cernes annuelles, produits par la prolifération des cellules ligneuses sous l'écorce. Chaque cerne est composée d'une couche tendre appelée bois de printemps ou bois initial et d'une couche dure appelée bois d'été ou bois final. En automne et en hiver, la croissance de l'arbre est arrêtée. Dans les bois dits hétérogènes, la distinction entre ces deux couches est aisée. C'est le cas des résineux, par exemple le Douglas. Dans les bois dits homogènes, la distinction est plus délicate. C'est le cas des essences tropicales, entre autres ici du cipot. C'est également le cas d'une essence locale, comme le hêtre. Il est difficile, dans ces conditions, de mener un calcul rigoureux de résistance des matériaux. Seule l'utilisation de coefficients de sécurité élevés, conduisant à un surdimensionnement exagéré, permet la prise en compte de cette grande variabilité. Jusqu'à une époque récente, on a utilisé dans la construction que du bois massif. Les progrès techniques en matière d'assemblage et de collage en particulier ont permis l'apparition de produits nouveaux utilisant le bois comme matériau de base. Citons parmi les plus connus le contreplaqué, le latté, et les panneaux de particules dont nous allons voir quelques étapes de la fabrication. Dépôt sur le tapis de particules encollées pour la réalisation de ce qu'on appelle le gâteau. Mise à dimension. Et maintenant, pressage, puis séchage. Ces produits que l'on nomme bois reconstitué présente l'intérêt d'intégrer dans les circuits de fabrication des bois de moindre qualité. Ces bois à défaut peuvent être également employés tels qu'ils sont. Mais pour cela, il faut bien connaître les propriétés d'utilisation de ces bois, surtout lorsqu'ils présentent des défauts qui risquent de mettre en péril l'intégrité des constructions. C'est le but que s'est assigné la recherche en mécanique de la rupture appliquée au bois. Proposer une méthode permettant de connaître les contraintes maximum admissibles, dans une structure où l'on tolère la présence de défauts. En particulier, la mesure de la résistance à la propagation brutale d'une fissure, autrement appelée ténacité, est la clé de cette méthode.
L'équation fondamentale de la mécanique linéaire élastique de la rupture admet l'égalité entre une grandeur K1 et le produit de la contrainte appliquée par la racine carrée de la longueur du défaut multipliée par pi.
Lorsque les contraintes augmentent un peu, la longueur du défaut ne change pas. Le facteur d'intensité de contrainte augmente. Si on augmente encore les contraintes, il arrive un moment où le facteur d'intensité de contrainte ne peut plus croître parce qu'il a atteint une valeur limite critique. Et c'est le défaut qui se propage brutalement, c'est la rupture catastrophique. Cette valeur critique, K1C, est une caractéristique qui est maintenant bien connue à propos de nombreux matériaux de construction. Si le matériau est isotrope, cette valeur est unique.
Mais le bois est un matériau anisotrope. C'est-à-dire que ses propriétés mécaniques ne sont pas les mêmes dans toutes les directions de l'espace. On définit dans le bois trois directions principales. Longitudinale, parallèle aux fibres. Radiale, perpendiculaire aux cernes annuelles. Tangentielle, c'est-à-dire tangente aux cernes annuelles. Selon les orientations respectives de la fissure et des fibres, on définit six facteurs d'intensité de contrainte critique différents pour chaque système de prélèvement. RT, TR, LT, LR, TL et RL.
L'anisotropie, l'hétérogénéité et la variabilité de la structure du bois vont en outre compliquer singulièrement la tâche de l'expérimentateur chargé de déterminer les contraintes. Une méthode pour résoudre cet épineux problème consiste à observer au niveau du défaut, les effets des contraintes générées par une charge appliquée à l'ensemble de la structure. C'est la méthode dite de la complaisance. On mesure le bâillement de l'entaille provoqué par une charge P. Lorsqu'il y a rupture pour une charge critique P indice C, on calcule l'énergie G indice C libérée par le système. G indice C égale P indice C au carré sur 2B que multiplie DC sur DA, où petit a est la longueur du défaut, B l'épaisseur de l'échantillon, D la marque d'une différentielle. La complaisance C est définie comme étant le quotient du bâillement des lèvres de l'entaille par la charge appliquée. L'énergie G indice C est une caractéristique du matériau et peut servir à calculer K1C grâce à la relation G indice C sur S égale K1C au carré, où S est une fonction des constantes élastiques du matériau. Pratiquement, l'essai se déroule de la manière suivante. Les échantillons ont été prélevés dans une planche, rabotés et découpés selon des dimensions bien déterminées. Pour transmettre les efforts appliqués, on colle à chaque extrémité des épaulements. On introduit un défaut artificiel dans une éprouvette à l'aide d'un trait de scie. On améliore l'acuité de l'entaille par une incision à l'aide d'une lame de rasoir. Cette Cette éprouvette, présentant un défaut de longueur connu, est montée entre les mâchoires d'une machine de traction, qui va exercer un effort perpendiculaire au plan de l'entaille. Cet effort est mesuré de façon précise à l'aide d'un capteur de force. Le bâillement de l'entaille est mesuré par un extensomètre à lame placé à cheval sur celle-ci. Ces deux paramètres sont enregistrés sur un graphique donnant la charge en fonction du bâillement. On répète cette expérience pour chaque longueur d'entaille différente. Si on examine la surface de l'échantillon, on n'observe d'abord aucune modification du matériau. Puis, des petites fissures apparaissent. Et, très brutalement, l'éprouvette casse, verticalement. Ou horizontalement, selon le sens des fibres. Simultanément à la prise de vue, le diagramme charge-ouverture a été enregistré. Il présente d'abord une partie linéaire, puis une partie incurvée, puis un point correspondant à la séparation complète de l'échantillon. Il nous faut déterminer avec précision le point correspondant au début de la propagation de l'entaille. On a pu établir une correspondance entre le moment où apparaissent les fissures et la perte de linéarité de la courbe. On détermine donc avec précision une charge et un déplacement critique. On répète alors cette expérience avec des entailles de différentes longueurs et on porte sur un graphique la complaisance de chaque éprouvette en fonction des longueurs d'entailles correspondantes. Les points obtenus sont lissés à l'aide d'une courbe exponentielle du type C égale A exponentielle BA, d'où on déduit aisément la valeur de DC sur DA, que l'on introduit dans l'expression de G indice C. On en déduit ensuite K1C. Cette valeur du facteur d'intensité de contrainte critique caractérise donc l'aptitude du bois à résister à la propagation brutale de la fissure préexistante. On peut donner les valeurs de K1C obtenues sur quelques essences et selon deux types de prélèvements, LT et TL. Il est intéressant de noter que cette valeur de K1C est une propriété intrinsèque du matériau et qu'elle présente une dispersion moindre que les autres paramètres classiques de résistance des matériaux. Elle permet donc de déterminer, avec un niveau de confiance acceptable, les contraintes admissibles dans une structure en bois. Notre méthode de mesure de la ténacité du bois permet non seulement de mieux connaître le matériau, mais de dimensionner au plus juste les structures en tenant compte du nombre, de la position et de la nature des défauts. Par exemple, le lamellé-collé est surtout utilisé pour la fabrication d'éléments de charpente employant du bois massif de petite dimension. Cette technique autorise la création de formes nouvelles où l'audace ne le dispute qu'à l'esthétique. ce qui jadis était jeté au feu, est aujourd'hui valorisé sous une forme nouvelle dans les circuits commerciaux. Cet aspect économique est loin d'être négligeable. Dans le secteur bois, notre balance commerciale est déficitaire de plusieurs milliards de francs et vient en seconde ligne derrière le pétrole. On cherchera donc à utiliser au mieux nos ressources en bois indigène. Cette perspective nouvelle dans les calculs de résistance des matériaux doit déboucher sur l'utilisation de bois traditionnellement destiné au feu, à la pâte à papier ou aux panneaux de particules. La construction à l'aide de bois présentant des défauts non dangereux doit faire encore économiser à nos forêts le lourd tribut d'une exploitation abusive. Éviter les sacrifices inutiles, rentabiliser au maximum l'arbre abattu, c'est une des finalités de ce travail.